Eh bien, la parole maintenant à notre candidate Nathalie Arthaud.
Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Dans une semaine, le premier tour sera derrière nous. Et avec lui, le droit accordé aux électeurs d'exprimer dans cette élection présidentielle une opinion au plus près de leurs convictions. Oh, ce droit est limité, encadré, mais il existe quand même un peu au premier tour. En revanche, au deuxième tour, il ne restera que deux candidats, très probablement Hollande et Sarkozy. Les règles du jeu électoral font que leurs discours respectifs se ressembleront, et se ressembleront plus encore que maintenant. Les instituts de sondage prêtent quelque 30% d'intention de vote à chacun au premier tour. Hollande est à peu près sûr que l'électorat de Mélenchon le rejoindra au second tour, ce qui l'amènera, tout comme Sarkozy, a tenté de séduire l'électorat de Bayrou. Et au-delà de leur étiquette et de la différence de style, ces deux politiciens professionnels se sont formés tout au long de leur carrière pour servir, une fois élus, les intérêts de la classe qui domine toute la société, la classe capitaliste. Toutes les institutions de la bourgeoisie, comme tous les grands médias, s'efforcent d'habituer l'opinion publique à l'idée que seul le deuxième tour compte, puisque c'est celui qui désignera le futur président de la République. Mais j'appelle les électeurs des classes populaires à utiliser le premier tour pour exprimer non seulement leur rejet de l'homme qui occupe aujourd'hui l'Élysée, mais aussi le rejet du système économique et social, un système où ce sont précisément ceux qui produisent et qui font tout fonctionner, qui vivent le plus mal, pendant que tant de riches parasites qui ne font rien d'utile, amassent des fortunes de plus en plus grandes. Oui, Sarkozy. Oui, Sarkozy, on l'a vu à l'œuvre. Il a commencé son mandat en multipliant les cadeaux aux plus riches. Allègement d'impôts sur les successions, sur les investissements, sur la fortune. Et avec la crise, l'unique souci de Sarkozy a été de sauver les banquiers, d'aider les industriels à passer le mauvais cap. Et tout ce que ces messieurs ont demandé, eh bien, ils l'ont eu. Les travailleurs, en revanche, n'ont reçu que des coups. La réforme des retraites, avec l'obligation pour les salariés de travailler plus longtemps et pour une pension moindre. Des dizaines de milliers de suppressions d'emplois dans les services publics, qui vaut au gouvernement d'avoir été le plus grand licencieur du pays. Et les plans d'austérité, qui ne disaient pas leur nom. Et puis aussi, les innombrables coups de canif aux droits sociaux. De tout cela, Sarkozy est très fier. Et s'il est réélu, il nous promet de continuer, au nom de la lutte contre les déficits, avec ce qui n'est rien d'autre qu'un troisième plan de rigueur. Avoir supprimé 80 000 postes dans l'éducation nationale ne lui suffit pas, il veut continuer. Oh, le manque de profs ne se voit peut-être pas beaucoup à Neuilly, où les remplacements sont assurés, et où l'on peut sans problème étudier avec 3 ou 4 élèves de plus par classe, mais pas dans les communes populaires où de plus en plus d'enfants ont des difficultés et sont noyés dans des classes de 25, de 30. On dit de ces élèves qu'ils sont en échec et parfois même qu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais c'est l'école qui les rejette et c'est l'école qui les exclut. « Sarkozy promet aussi de nouveaux sacrifices dans la santé. Mais des milliers de postes de personnel hospitalier ont déjà été supprimés, avec pour conséquence des milliers de lits d'hôpitaux en moins, la fermeture de services entiers et la fermeture de maternités. Oui, se soigner coûte de plus en plus cher et c'est devenu un problème pour beaucoup. Je n'ai pas l'intention de continuer l'énumération de toutes les mesures que Sarkozy a prises pour favoriser les plus riches, ni toutes celles qui ont aggravé chaque fois les conditions d'existence des travailleurs. Nous les avons toutes subies. Au-delà des décisions qui sont du ressort du gouvernement, et dont lui et ses acolytes sont directement responsables, il a surtout laissé les mains libres au grand patronat, aux banquiers, à la grande bourgeoisie, les mains libres pour récupérer sur le dos des exploités les profits et les dividendes que le marché de leur économie en crise n'est plus capable de leur donner. Dans sa récente lettre aux Français, Sarkozy explique, je le cite, qu'en 1929, les pays se sont isolés. 10 ans plus tard, le monde sombrait dans le conflit le plus barbare de tous les temps. Avant d'ajouter, sans rire, en 2009, la France a convaincu les Américains de créer le G20, dont les mesures ont évité le pire. Eh bien, pour un peu, on l'aurait ignoré, mais Sarkozy nous a épargné une troisième guerre mondiale. Alors, après avoir été avocat d'affaires, maire de la ville la plus riche de France, président de la République, bonimenteur de première catégorie, eh bien Sarkozy se fait historien, prophète, voire sauveur du monde. Eh bien voilà, cela fait de nombreuses reconversions possibles pour après le 6 mai. Mais si les dirigeants socialistes reviennent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils feront? Est-ce qu'ils empêcheront le patronat de licencier, de fermer des usines? Est-ce qu'ils l'obligeront à augmenter les salaires? S'il est élu, est-ce que Hollande forcera le patronat à embaucher? Eh bien non, non, il ne le fera pas. Et pas seulement parce que dans cette campagne, il ne l'a pas promis, mais parce qu'au pouvoir, les socialistes ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient. La seule promesse de Hollande, c'est sur les retraites. Mais plus on s'approche des élections, et plus les 60 ans reculent pour la grande majorité. En réalité, cela ne concerne que ceux ayant commencé à travailler à 18 ans, et à condition d'avoir 41,5 années cotisées, c'est-à-dire sans période de chômage ni d'arrêt longue maladie. Alors, vous parlez d'une promesse. Que ce soit sur les contrats de génération, sur la création des emplois dans l'éducation ou sur la retraite, Hollande s'en tient au strict minimum, tout en expliquant que ces maigres mesures sont en plus conditionnées à la croissance et qu'il faudra d'abord et avant tout payer la fameuse dette de l'État. La seule audace que Hollande s'est permise dans cette campagne, c'est cette proposition de taxer à 75% la part des revenus des plus riches au-dessus du million d'euros. Mais il n'est même pas sûr qu'elle soit appliquée, tant les voix se multiplient, y compris à gauche, pour dire qu'elle pourrait être considérée comme anticonstitutionnelle. Et de toute façon, ce n'est pas cela qui diminuera les impôts pour les travailleurs. Non, le seul engagement ferme que Hollande a pris est vis-à-vis des banquiers. Il insiste, comme Sarkozy, sur la nécessité de revenir à l'équilibre des comptes et de rembourser la dette de l'État au plus vite, quand bien même cette dette est celle de la bourgeoisie et que ce devrait être à elle de la rembourser. Certes, Hollande nous promet une politique de rigueur plus juste. Mais cela ne change rien au fait que ce n'est pas aux classes populaires de payer. Hollande a tenu pendant la campagne à rappeler aux financiers de la City de Londres que la gauche au pouvoir s'est toujours montrée bonne gestionnaire, qu'elle a même su privatiser et libéraliser la finance. Eh bien, tout est dit. Si futur gouvernement socialiste il y a, il fera ce que la finance lui imposera. Si Hollande est élu, les sacrifices continueront. Les coûts, au lieu de venir de la droite, viendront de la gauche. Alors, Si les travailleurs ont toutes les raisons d'exécrer Nicolas Sarkozy, ils n'en ont aucune, vraiment aucune, de faire confiance à François Hollande. Au fond, le seul atout de Hollande aux yeux de l'électorat populaire, c'est qu'il passe pour être celui qui peut battre Sarkozy. Pour le reste, il ne se fait guère d'illusions sur lui. C'est cette réticence à s'aligner derrière Hollande qui fait la fortune de Mélenchon. Avec ses airs de tribun et ses envolées contre les puissances de l'argent, Mélenchon a su attirer un certain nombre d'électeurs de gauche critiques envers Hollande. Il a su attirer également une partie de ceux qui envisageaient de s'abstenir au premier tour. Mais tout le monde le sait, que si c'est précisément cette différence avec Hollande, son radicalisme verbal qui lui attire des électeurs, il apportera son électorat à Hollande et il s'inscrira dans la majorité gouvernementale. Mélenchon a réussi, au moins pour le temps d'une élection, à reprendre la fonction que le Parti communiste a remplie pendant si longtemps, celle de ramasse-voix pour le Parti socialiste. Et les militants du Front de gauche de répéter ce qui était le discours du Parti communiste du temps de marché. Plus le vote en faveur de Mélenchon sera important, plus il pourra influer sur la politique des socialistes. Mais non, le résultat de Mélenchon n'influencera pas la politique de Hollande, qui sera infiniment plus sensible aux pressions du grand patronat qu'à celles des électeurs de Mélenchon. Pas plus que l'électorat de marché à l'époque n'avait empêché le tournant du gouvernement socialiste vers la politique de rigueur. Pourtant, Marché avait recueilli au premier tour de la présidentielle de 1981 autant de voix que Mélenchon au plus haut des sondages. Mais il avait eu beau s'agiter, ainsi que les quatre ministres du PCF, il n'avait pu empêcher le gouvernement Mitterrand de bloquer les salaires, de licencier en masse dans la sidérurgie. C'est quand le PCF s'est rendu compte que cette caution à Mitterrand démoralisait ses militants et lui éloignait ses électeurs que les ministres communistes ont démissionné. 15 ans plus tard, signe de l'évolution du Parti communiste, les ministres communistes que Jospin avait acceptés dans son gouvernement ont choisi, eux, d'accepter toutes les mesures anti-ouvrières et de la fermer. Alors que Mélenchon ou ses compagnons de route du Parti communiste participent ou pas à un futur gouvernement d'union de la gauche, cela ne rendra pas la politique de Hollande meilleure. Ils auront seulement contribué à remplacer auprès d'une fraction de l'électorat les illusions dans Hollande par des illusions dans Mélenchon. Dire aux travailleurs qu'il suffit de bien voter pour avoir un bon gouvernement de gauche est toujours un leurre. Et avec la crise, il l'est encore plus aujourd'hui. Plus la crise s'aggrave, moins il y a de place pour un bon gouvernement de gauche. Il n'y a de la place que pour un gouvernement de combat de la bourgeoisie. Ce qui s'est passé en Grèce avec le gouvernement socialiste de Papandréou et en Espagne avec Zapatero doit nous servir de leçon. Le capital financier n'a laissé aucune échappatoire, aucune marge de manœuvre à ces gouvernements de gauche. Eh bien, il n'en laissera pas plus en France. Et nul doute que si la crise s'aggrave, que le gouvernement soit de droite ou de gauche, il imposera aux travailleurs les mêmes sacrifices imposés aujourd'hui aux travailleurs grecs et espagnols, les amputations de salaires et de retraites, la démolition des services publics et le chômage forcé. Alors on entend de tous les côtés qu'il faut battre Sarkozy et que cela ne peut pas être pire. Mais si, si, cela peut être pire, parce que la crise peut se poursuivre et s'aggraver, et que ce soit Hollande ou Sarkozy, les coups tomberont. Et si les coups viennent de la gauche, Eh bien, cela ne les rendra pas meilleurs. Alors, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il faut se préparer à se défendre par nous-mêmes, par nos propres luttes. Il y a un domaine où la gauche et la droite au gouvernement ne font même pas semblant d'être différents. C'est en matière de politique étrangère, en matière de militarisme. Ils sont d'accord pour mener la même politique impérialiste. Mais qui, dans les classes populaires, a intérêt à ce que l'armée française mène en Afghanistan une guerre qui lui vaut la haine de la population de ce pays ? Qui a tiré avantage des bombardements sur la Libye en dehors du sol d'assaut, pour qui cette guerre a représenté de la publicité sans frais pour son avion Rafale ? Qui, dans les classes populaires, a eu intérêt à l'intervention des troupes françaises en Côte d'Ivoire ? On nous parle de défense nationale. Mais qui nous a attaqués ? L'Afghanistan ? La Libye ? La Côte d'Ivoire ? Depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a près de 70 ans, personne n'a attaqué la France, alors que l'impérialisme français, lui, a mené des guerres coloniales abjectes, du Vietnam à Madagascar, de l'Algérie au Cameroun. Et oui, sur ce terrain, il n'y a nulle différence entre la gauche et la droite. Eh bien, une politique fidèle aux intérêts des travailleurs doit s'élever contre la présence des troupes françaises dans les ex-colonies d'Afrique, qui ne sont là que pour protéger des régimes à la solde des intérêts du grand capital français, même lorsque leur peuple les rejette. Une politique qui doit s'opposer aux interventions de l'armée française. À bas l'impérialisme français ! Les dirigeants politiques, comme les médias, présentent l'élection comme l'événement politique dont dépend l'avenir de l'économie, l'avenir du pays, notre avenir à nous tous. Mais ce changement ne concernera que la toute petite caste de politiciens professionnels. Et on les voit déjà frétiller à gauche devant les cabinets ministériels, les postes et les sinécures qui seront à partager. Qui sera Premier ministre ? Qui sera président de l'Assemblée nationale ? À droite, on se prépare plutôt à ronger son frein pendant 5 ans, en exerçant le dur métier d'avocat d'affaires, ce qui n'est finalement qu'une autre façon de continuer ce qu'ils faisaient au pouvoir. Alors oui, la carrière individuelle de quelques politiciens peut changer, mais pas l'avenir des exploités, pas l'avenir des travailleurs. Ce qui sera déterminant pour notre vie à tous, ce n'est pas le futur locataire de l'Élysée, mais ce qui se passe en bourse, ce qui se passe sur les marchés financiers. C'est l'évolution de la crise et la politique patronale qui sera déterminante. Les grands candidats nous amusent avec leurs programmes électoraux chiffrés, avec leurs calendriers précis, mais pas un de ces programmes ne sera appliqué. Le seul programme qui sera réellement appliqué est celui dont on ne peut pas discuter, sur lequel on ne peut rien dire, parce qu'il est décidé dans le secret des conseils d'administration des grandes entreprises et des banques. Les grands groupes ont leur plan déjà tout fait pour les mois à venir. Chez Peugeot, à la Société Générale, chez Vinci, à Air France, à la SNCF, chez Total. ArcelorMittal a décidé de fermer Florange. Peugeot a décidé de fermer l'usine d'Aulnay-sous-Bois. Mais combien d'autres plans de licenciement sont déjà planifiés ? Combien de plans d'économie qui aggraveront les conditions de travail, qui écraseront les salaires ? et il n'y aura pas de vote organisé sur ces programmes. Qui nous touche en premier lieu? On nous parle de démocratie, mais les vrais maîtres de l'économie et de la société, ce sont les Peugeot, les Bouygues, les Arnaud, les Dassault, les Mittal. Et il n'y a pas d'élection pour contester leurs décisions. Il n'y a pas d'élection pour renverser ces gens-là. Alors, on nous incite à aller voter. On nous répète que la population est souveraine, que c'est elle qui décide. Mais tant que l'on ne votera pas pour les dirigeants des entreprises, pour les dirigeants des banques, on ne votera que pour des sous-fifres. Les capitalistes sont les rois des temps modernes. Ils détiennent le pouvoir que leur assurent leurs capitaux et la propriété privée des entreprises. Ils ont un droit de vie ou de mort sur les entreprises. Ce sont eux qui décident ce qui est bon de produire. Oh, pas en fonction des besoins de la population, non, en fonction du profit que cela peut leur rapporter. Et ce sont eux qui décident de ne pas produire et de consacrer leurs capitaux à la spéculation. Le pouvoir de la bourgeoisie est infiniment plus grand que celui des ministres ou du président de la République, qui ne sont là que pour la figuration, que pour justifier les décisions prises dans ces grands groupes capitalistes. Et il n'est malheureusement pas difficile pour les travailleurs de prévoir qu'une fois l'élection terminée, ces mêmes grands groupes continueront les plans de licenciement. Le nombre de chômeurs, 3 millions, 6 millions en comptant ceux qui n'ont qu'une activité précaire, mal payée. Ce chiffre-là est déjà une catastrophe. Elle l'est pour les chômeurs et pour leurs familles, mais elle l'est aussi pour d'autres catégories sociales, pour les petits commerçants, artisans, paysans qui vivent grâce au salaire des ouvriers. On sait tous que lorsqu'une grande entreprise ferme, il n'y a pas que les familles des travailleurs qui plongent dans la pauvreté. Combien de boutiques, de bistrots, d'ateliers, de garages sont obligés de fermer? Le grand patronat a transformé le chômage, dont il est responsable, en une arme de guerre contre tous les travailleurs en activité. Chaque patron s'en sert pour exercer un chantage permanent et faire accepter les salaires bas, la flexibilité, la précarité, l'augmentation des cadences, des horaires de travail de plus en plus dingues. Combien de travailleurs n'osent plus demander que leurs heures supplémentaires soient payées? Combien de travailleurs vont travailler tout en étant malades parce qu'ils craignent qu'on leur fasse payer leur absence? Combien de jeunes sont pressés comme des citrons dans l'espoir d'être embauchés et sont renvoyés du jour au lendemain? Au lendemain de l'élection, les attaques contre les salariés reprendront plus vigoureusement encore parce que c'est la crise et qu'elle n'en finit pas. L'économie capitaliste est une économie folle dont les à-coups sont totalement imprévisibles et même pour ceux qui la dirigent. À peine Sarkozy a-t-il fait une déclaration dans le genre « On est en train de sortir de la crise financière » que le lendemain, les bourses chutaient les unes après les autres. Le capitaine du Costa Concordia, qui a dirigé un bateau de croisière sur les rochers pour, paraît-il, briller de mille feux depuis le village voisin, n'était peut-être pas plus compétent dans son domaine. Mais au moins, il est aujourd'hui terré dans son village où il attend son procès et il ne postule pas à nouveau à un poste de commandement. Sarkozy, lui, prétend toujours tenir la barre, alors même que cet énième soubresaut boursier montre à quel point les dirigeants politiques ne maîtrisent rien et mentent comme des arracheurs de dents. Ce soubresaut boursier montre l'instabilité du système financier. Et l'instabilité engendre l'instabilité. Il suffit qu'un mouvement boursier se dessine dans un sens ou dans un autre pour que l'armada des financiers se mette à spéculer là-dessus, amplifiant la vague, un peu comme les passagers d'un bateau qui par affolement se mettent tous du même côté et déséquilibre l'embarcation au risque de la faire couler. Alors, la préoccupation des plus gros capitalistes n'est pas de réguler l'économie. Ils sont aux premières loges pour savoir à quel point elle est irrationnelle, erratique. Non, leur unique préoccupation est de faire de l'argent. Non seulement malgré la crise, mais grâce à la crise. Et c'est pour alimenter cette spéculation qu'il faut dégager toujours plus d'argent en aggravant l'exploitation par tous les moyens possibles. Leur unique préoccupation, c'est d'accroître les dividendes et les fortunes privées des actionnaires, quitte pour cela à écraser toutes les classes populaires et en premier lieu ceux qui fabriquent les richesses, leurs salariés. Sarkozy a déclaré « L'entreprise n'est pas notre ennemi, c'est l'endroit où l'on crée la richesse. La lutte des classes, la guerre de classes, ça n'existe plus. » Eh bien, les travailleurs sont bien placés pour savoir que oui, c'est l'endroit où se créent les richesses, parce que ce sont eux qui les suent, les profits. Et ils sont bien placés pour voir aussi que plus ils en créent des richesses, plus ils triment, plus ils vivent mal. Alors la lutte de classe, eh bien, ils la vivent au quotidien. Et avec la crise, elle s'est aggravée. Et elle deviendra de plus en plus dure, de plus en plus implacable. Alors, les travailleurs doivent se préparer à en découdre. Les conséquences de la crise seront forcément payées par quelqu'un. Si nous ne voulons pas que ce soit les travailleurs qui payent, il faut nous battre pour revendiquer notre dû et il faudra faire payer la bourgeoisie. C'est leur CAC 40 ou c'est nos emplois. C'est leur profit ou c'est nos salaires. C'est leur sinécure ou c'est nos retraites. C'est eux ou c'est nous. Le grand patronat a pour lui la puissance de ses capitaux et ses liens avec les sommets de l'État. La force des travailleurs, c'est leur nombre et c'est aussi leur place indispensable dans la production. Mais cette force, eh bien, elle est collective. Elle ne peut se déployer que lorsque les travailleurs prennent conscience qu'au-delà de la variété de leur métier, de leur branche d'activité, ils font partie d'une même classe sociale, qu'ils ont des intérêts fondamentalement identiques face aux intérêts du grand patronat et des banquiers. Voilà pourquoi, si les travailleurs veulent résister efficacement à l'offensive de la classe capitaliste, il leur faut surmonter tous les préjugés que la bourgeoisie entretient dans leurs rangs, malheureusement parfois par l'intermédiaire de certaines organisations ouvrières ou par des hommes politiques qui se disent de gauche. Si les travailleurs veulent se défendre efficacement, il n'y a pas de place pour le chacun pour soi, il n'y a pas de place pour le corporatisme. Combien de fermetures d'entreprises ont montré qu'un ingénieur hautement qualifié et à plus forte raison des petits chefs sont aussi facilement licenciés qu'un ouvrier sans qualification? À infiniment plus forte raison, il faut rejeter toute forme de division entre travailleurs en fonction de la nationalité, de l'origine ou de la religion. C'est bien pourquoi le Front National et sa candidate sont des ennemis mortels pour les travailleurs. Ils le sont pour l'ensemble de leurs idées réactionnaires qui tirent la société en arrière. Mais pour ce qui est des intérêts de la classe ouvrière, ils le sont précisément parce qu'ils dressent les travailleurs les uns contre les autres, en fonction de leur origine, en fonction de leur religion ou de leur papier. Oh, bien sûr, l'extrême droite n'est pas la seule sur ce terrain. Les semaines qui viennent de s'écouler ont amplement montré à quel point les limites entre la droite et l'extrême droite s'effacent dans la rivalité électorale, à quel point les Sarkozy, Guéant, Guénot et tous les autres finissent par copier la dynastie Le Pen quand ce n'est pas l'inverse. Alors, ceux qui, dans les classes populaires, se sentent trahis et abandonnés par la gauche gouvernementale et sont tentés par le vote du Front National se tirent une balle dans le pied. Montrer du doigt plus pauvre que soi, rendre responsables de ces problèmes d'autres travailleurs. L'étranger, c'est se tromper d'ennemi, c'est se tromper de colère, c'est se résigner à subir. À bas la résignation, à bas le Front National. Quand j'entends que les uns à droite rejettent l'idée même du droit de vote des travailleurs étrangers et que les autres à gauche discutent depuis près de 30 ans de la possibilité de leur donner le droit de vote seulement aux élections locales, je me dis que c'est une honte. Bien sûr que les travailleurs immigrés devraient avoir tous les droits dont bénéficient les travailleurs français, à commencer par le droit de vote à toutes les élections. Qu'est-ce que c'est que cette démocratie où on a le droit de se faire exploiter, de payer des cotisations sociales et des impôts, mais pas de voter? Les travailleurs immigrés forment une partie essentielle de la classe ouvrière de ce pays. Sans eux, pas un chantier du bâtiment, pas une société de nettoyage, pas une usine automobile ne fonctionne. Pas un aéroport non plus, comme l'a montré la grève des agents de sûreté. Écarter les travailleurs immigrés du droit de vote, c'est une façon de sous-représenter la classe ouvrière dans l'électorat. C'est une façon d'affaiblir la portée de la voix de tous les travailleurs. Accorder le droit de vote dans toutes les élections à tous ceux qui travaillent ici serait un geste démocratique élémentaire, comme le serait celui de régulariser la situation de tous les sans-papiers. Un geste démocratique évident. Un geste démocratique évident, appliqué instinctivement par les travailleurs dans toutes les grèves, dans toutes les manifestations, où il n'y a nul besoin de papier ni de carte d'identité pour y prendre part. Alors oui, tous ces réactionnaires de gauche comme de droite auraient bien des leçons de démocratie à prendre du côté des travailleurs. Et pourquoi y aurait-il donc trop d'étrangers en France? Au prétexte que c'est la crise, au prétexte qu'il n'y a plus de travail, il faudrait dire à tous ceux qui ont trimé et qui continuent de trimer dans les travaux publics, dans la restauration, dans les hôpitaux, qu'il n'y a plus besoin d'eux et qu'ils n'ont qu'à crever. Et après, qui y aura-t-il de trop dans la société? Les anciens, parce qu'ils coûtent cher à la sécurité sociale? Les jeunes, parce qu'ils sont les premiers frappés par le chômage? Les femmes, parce que certains nous diront qu'elles peuvent bien rester au fourneau? Eh bien non, non. Il n'y a aucun travailleur de trop dans la société. Et l'intérêt collectif, eh bien ce serait de répartir le travail et les efforts entre tous et d'avoir chacun un salaire qui permette de vivre. Mais cela, eh bien il faudra l'imposer au patronat. Et pour l'imposer, il ne faudra pas se laisser diviser, mais il faudra au contraire unir toutes nos forces. Et je suis convaincue que dans les prochaines luttes, tous les travailleurs se retrouveront côte à côte, travailleurs français ou immigrés, avec ou sans papier. Ils se battront, quelle que soit leur origine, leur nationalité, leur religion, comme un seul homme contre les capitalistes de toute nationalité, de toute origine. C'est dans la perspective de ces luttes inévitables que j'ai défendu tout au long de la campagne électorale un programme de lutte pour les travailleurs, c'est-à-dire un certain nombre d'objectifs qu'il faudra imposer, non pas dans les urnes, mais par les luttes, pour répondre aux problèmes les plus brûlants des travailleurs. Le premier objectif, c'est d'abord et avant tout imposer l'interdiction des licenciements. Même dans cette période de crise, il y a toujours de l'activité, il y a toujours de la production à faire. Eh bien, il faut imposer au patronat qu'il garde au travail tous les salariés et qu'il répartisse l'activité. Interdiction de renvoyer les intérimaires, interdiction de renvoyer les CDD, interdiction de licencier dans cette période de crise, que le patronat répartisse le travail autrement, qu'il baisse les cadences ou les horaires, mais qu'il garantisse et l'emploi et les salaires. Dans tous les grands groupes, c'est le réflexe inverse. Faire la liste des groupes capitalistes qui ont licencié ou supprimé des emplois depuis 3 ans est impossible. Ils l'ont quasiment tous fait. En 3 ans, 900 usines ont fermé, une par jour. Il y a bien sûr ceux dont on entend parler, Petroplus, ArcelorMittal, Fralib, PSA. Mais il y a tous ceux dont on n'entend pas parler, comme l'usine Merck dans l'Oise, comme l'usine Sodi Médical près de Troyes. Et je vous salue, comme les pépinières d'Elbar à Montluçon. Et c'est sans oublier le renvoi des intérimaires, qui sont ni plus ni moins que des licenciements. Alors oui, c'est un réflexe admis par beaucoup de commentateurs politiques et d'experts économiques. Pour tous ces gens, il est tout à fait normal que les entreprises confrontées à des petites baisses d'activité mettent les travailleurs à la porte, de la même façon qu'une machine ne sert plus, ne peut être mise à la benne. Comment les travailleurs sont censés vivre ? Après cela, ils s'en moquent. Eh bien, pas nous. Se retrouver au chômage, c'est une condamnation à la misère. Interdire les licenciements est une mesure d'urgence. Il faut obliger le patronat à puiser dans ses profits présents pour assurer les emplois et les salaires de tous les travailleurs. Et si ces profits ne suffisent pas, eh bien qu'ils prennent sur les profits passés et pourquoi pas sur les fortunes privées accumulées. Et si le patronat privé se révèle incapable de procéder à des embauches en nombre suffisant pour résorber le chômage, il faut que l'État prenne le relais. Pour avoir les moyens financiers d'embaucher directement dans les services publics existants ou à créer, il faut que l'État arrête immédiatement toute subvention directe ou indirecte au patronat. Il faut qu'il supprime tout dégrèvement fiscal, tout allègement de cotisations sociales. Pourquoi donc l'État devrait-il continuer à entretenir des parasites inutiles qui ne sont même pas capables d'exercer leur métier de patron en investissant? Et avec l'argent ainsi économisé, eh bien, il faut embaucher dans tous les services publics utiles à la population. Le manque de logements convenables et accessibles aux revenus les plus modestes est un scandale au XXIe siècle, dans un des pays les plus riches de la planète. Qu'à notre époque, des centaines, des milliers de personnes n'aient pas d'autre endroit pour vivre que la rue ou des abris provisoires, et que des centaines de milliers de personnes s'entassent dans des conditions infectes est un signe de la pourriture de la société. Puisque cela n'intéresse pas les bétonneurs privés, ce devrait être à l'État de s'engager dans une politique de grands travaux pour construire les centaines de milliers de logements qui manquent et pour construire aussi toutes les infrastructures qui vont avec, des crèches, des écoles, des foyers de jeunes, des centres culturels. Mais il ne faut pas que ces grands travaux génèrent du profit privé au service des Bouygues, Dumez, Vinci. Il faut que l'État embauche directement pour toutes les tâches nécessaires. Et il y a là du travail pour bien des maçons, des plombiers, des électriciens, des peintres, de la main-d'œuvre non qualifiée, et aussi pour des techniciens, pour des ingénieurs, pour des architectes, des comptables, des informaticiens. Et il y a bien d'autres secteurs où les capitaux privés sont complètement défaillants, celui de l'aide aux personnes âgées ou handicapées, sauf à faire payer leurs services à prix d'or dans des maisons de retraite, par exemple. Eh bien, le fait qu'aucun de ces besoins vitaux ne peut être résolu sur la base des intérêts privés est le signe le plus sûr que le destin de la société ne doit pas être laissé dans les mains des capitalistes. Les salariés, c'est de plus en plus dur de joindre les deux bouts. Mais combien d'entre nous qui n'ont qu'un travail à temps partiel, un emploi intermittent, doivent s'en sortir avec 700, 800 euros ? Combien de retraités qui ont travaillé toute leur vie voient leur maigre pension diminuer par l'inflation ? Combien de familles de travailleurs ne s'en sortiraient pas sans les restos du cœur ? Alors, rien que pour rattraper le pouvoir d'achat perdu, il faut une augmentation massive, générale des salaires. Pas un salaire ou une retraite ne doit être inférieur à 1700 euros net. Mais si l'on ne veut pas être sans cesse appauvri par l'augmentation des prix, il faut en plus obtenir l'indexation des salaires sur les prix, c'est-à-dire l'échelle mobile des salaires. L'inflation reprend, et on le voit, à commencer par le carburant, et on nous prépare à ce que les prix continuent d'augmenter, comme le prix du gaz et de l'électricité. Eh bien, il faut nous en protéger. À chaque augmentation de prix, il faut que les salaires, comme les retraites, le RSA, comme les allocations logement familiales, comme l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, augmentent automatiquement. Pour ne pas se laisser appauvrir quand tous les prix augmentent, il faut remettre d'actualité la lutte pour l'échelle mobile des salaires. Journalistes, quand je dis tous, c'est vraiment tous, m'ont posé la question suivante. Que faites-vous des petites entreprises ? Il y a bien des petites entreprises qui ne peuvent pas payer 1700 euros et des petites entreprises qui sont forcées de licencier. Bien souvent, je me serais cru interviewée par le représentant du syndicat des petites et moyennes entreprises. Les défenseurs de l'ordre social actuel invoquent toujours les petits pour prendre la défense des puissants. Parce qu'il est évident qu'interdire ArcelorMittal de fermer la scierie de Florange est tout à fait réaliste. Comme il est évident que Peugeot aurait tout à fait les moyens de faire tourner l'usine d'Aulnay. Quant à Carrefour, Auchan, la SNCF, la Poste, IKEA, Renault, ils pourraient tout à fait verser des salaires minimum de 1700 euros sans que cela ne les mette sur la paille. Quant aux petites entreprises, si elles disparaissent par centaines, ce ne sont pas les revendications de leurs salariés qui les tuent. Ce sont les banques, les gros donneurs d'ordre, les grands groupes capitalistes de la distribution. L'économie capitaliste est une jungle où les gros mangent les petits. Les gros donneurs d'ordre se servent de la sous-traitance, de l'externalisation pour comprimer les salaires. Ils forcent les plus petits qu'eux à signer des contrats léonins où les marges sont réduites à peu de choses. Et il y a toujours des margoulins pour signer parce qu'ils se disent qu'ils trouveront bien des travailleurs qu'ils pourront écraser et surexploiter. Mais ce n'est pas parce que les petites entreprises se font faire les poches par les plus gros et par les banquiers que les travailleurs doivent renoncer à leur droit de vivre. Les journalistes inquiétés par mon programme, comme si j'allais leur faire les poches, m'ont aussi beaucoup demandé « Mais combien ça va coûter tout ça ? Est-ce que vous l'avez chiffré ?» À des chiffres, ce n'est pas cela qui nous manque. Il y a 11 millions de femmes et d'hommes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il faut qu'ils sortent de la misère. Il y a 4,5 millions de chômeurs. Il faut créer 4,5 millions d'emplois. Il est très difficile de vivre en dessous de 1 700 euros. Eh bien, il faut des salaires et un minimum vieillesse à 1 700 euros. Alors oui, cela coûtera cher à la bourgeoisie. Mais pourquoi chiffrer ? Pour que le patronat et ses porte-paroles en tout genre nous disent que ce n'est pas possible, pas réaliste, pas sérieux, qu'il n'y a plus d'argent ? Mais si, de l'argent, il y en a. Quand tous les États ont sauvé les banquiers, fin 2008, ils ont su mettre en quelques jours des centaines de milliards sur la table, alors que ce n'était dans aucun programme. Rien n'avait été prévu, rien n'avait été chiffré. Tous les États ont trouvé les milliards et ils ont mis sur la table ce que les banquiers demandaient. Autant dire que le problème n'est pas dans le chiffrage, c'est une question de rapport de force. Dans les années 1934 et 1935, les patrons expliquaient aux ouvriers qui revendiquaient des augmentations salariales que ce n'était pas possible, que cela les ruinerait. Mais ce qui était impossible début 1936 est devenu possible en juin 1936, puisque à ce moment-là, les patrons ont accordé en moyenne des augmentations de 10-15%, et mieux même, ils ont payé, et c'était une grande première, 2 semaines de congés payés. Et ce n'est pas la croissance ou la soudaine reprise de l'économie qui a débloqué la situation, c'est la grève générale, c'est la peur bleue des patrons devant les occupations d'usines, la panique face à ce mouvement dont personne ne savait où il s'arrêterait. Alors, tant que les travailleurs ne pèseront pas sur la politique et sur le patronat, avec leurs propres armes, avec la grève et les manifestations, il ne se passera rien de décisif sur le plan politique. Rien, en tout cas, en notre faveur. Oui, il faut se battre bec et ongles pour nos revendications, pour notre droit à l'existence. La matière explosive s'accumule dans la classe ouvrière. Le moment de la révolte de millions de femmes et d'hommes viendra, tôt ou tard. Eh bien, il faut que dans cette révolte, les travailleurs aient une politique, qu'ils sachent pourquoi se battre et comment faire pour inverser durablement le rapport de force avec la classe capitaliste. La suppression de toutes les lois qui protègent le secret des affaires doit être un objectif essentiel pour ces luttes. C'est un pas incontournable pour contrôler ce que font ou projettent les conseils d'administration. Les travailleurs ont le droit de connaître tout ce qui se passe dans l'entreprise, les décisions, les projets, les comptes. Il ne faut pas accepter que les dirigeants discutent et tranchent dans le secret des conseils d'administration. Toute la société a intérêt à ces contrôles. Parce que les grosses entreprises ne se contentent pas d'exploiter leurs ouvriers, elles volent aussi les consommateurs, leurs fournisseurs ou leurs clients quand ils sont moins puissants. Il faut que l'on puisse connaître les conditions faites aux sous-traitants, les marges que les uns imposent aux autres, y compris les dessous de table. Il faut donner aux travailleurs les moyens légaux de tout dire de ce qu'ils voient sans être menacés de licenciement ou de mesures de rétorsion. À eux tous, Les travailleurs savent tout de leur entreprise. Il faut qu'ils aient le droit de regrouper les informations éparses, le droit aussi de les rendre publiques. C'est la seule façon de dénoncer et d'empêcher les crimes patronaux. Ceux perpétrés par les banquiers et les spéculateurs irresponsables, mais ceux aussi perpétrés par ces patrons qui sont prêts à sacrifier la santé de leurs salariés avec l'amiante, par exemple. Ceux aussi qui sont prêts à sacrifier la santé des consommateurs, des malades, comme ce fut le cas avec le Mediator et les prothèses PIP. Lever le secret des affaires serait un objectif essentiel lors d'une lutte générale, parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et prendre l'initiative pour les empêcher de nuire. La crise actuelle montre clairement que la classe capitaliste, les banquiers, préoccupés par leur seul profit privé, sont trop irresponsables à l'égard des intérêts de la société. Mettre en cause leur pouvoir dictatorial sur les entreprises, les soumettre à ce contrôle, est une nécessité sociale. Je ne dis pas « votez pour moi, je ferai ceci, je ferai cela et tout ira beaucoup mieux pour vous ». Voter pour ma candidature, ce sera exprimer la conviction que si les élections ne peuvent pas changer la vie, la lutte collective des exploités en a la force et la possibilité. Voter pour ma candidature, c'est affirmer que l'on n'est pas dupe devant ces alternances électorales et qu'il y a parmi les travailleurs des femmes et des hommes conscients d'avoir à se battre par eux-mêmes. Tous ceux qui voudront affirmer qu'il faudrait refaire un juin 36 ou un mai 68 pour imposer l'interdiction des licenciements, des augmentations de salaire et un contrôle des travailleurs sur les entreprises et sur leur argent pourront le dire en votant pour moi. Bien sûr, le vote ne remplace pas les luttes, mais les luttes se préparent dans les têtes. Avant même qu'une explosion sociale ne crée le rapport de force nécessaire pour imposer ces objectifs vitaux, nécessaires pour préparer les travailleurs, on peut en discuter, les populariser, les mettre dans la tête de ceux qui nous entourent. Cela préparera la suite qui se déroulera là où tous les changements se décident, c'est-à-dire dans les luttes. Oui, ce sera un vote utile. Bien au-delà de l'élection présidentielle, épiphénomène secondaire, bien au-delà même des rebonds de la crise, c'est l'évolution de cette société capitaliste qui est lourde de menaces pour l'humanité. C'est une évolution de fond qui n'a rien à voir avec la personnalité ou l'étiquette de tel ou tel président de la République. C'est une évolution qui dépasse les limites de l'Hexagone. Cette évolution, c'est partout la pénétration de l'argent, avec son effet dissolvant, pourrissant. On a beaucoup parlé de la financiarisation de l'économie. L'origine de cette financiarisation est que depuis près de 40 ans, le marché des biens matériels ne rapportant pas assez, les possesseurs de grands capitaux délaissent les investissements productifs et consacrent une part croissante de leurs capitaux aux opérations financières qui rapportent plus, c'est-à-dire à la spéculation. L'économie se transforme de plus en plus en économie de casino, avec une classe bourgeoise de plus en plus addicte à la spéculation. Dans la vie réelle, il arrive que certains joueurs compulsifs demandent à être interdits de casino. Mais la classe capitaliste qui a transformé la planète entière en casino n'a pas envie de se soigner. Au contraire, elle en redemande. Face au dernier soubresaut spéculatif il y a quelques jours, le patron de la Banque centrale américaine a constaté impuissant que, je le cite, « des pans entiers de la finance restent à réguler ». Certes, mais même lui, il n'y peut rien. C'est pour alimenter sans cesse la cagnotte de ces joueurs fous qu'on écrase les salaires, qu'on licencie à tout va, qu'on fait des économies sur les services publics utiles à la population. Mais il n'y a pas que cela. On démolit systématiquement tout ce qui ne rentre pas dans les circuits de l'argent, en particulier les services publics. De Balladur à Sarkozy, en passant par Jospin, ils se sont passés le relais de la droite à la gauche pour privatiser des pans entiers du service public et pour introduire des rapports d'argent même là où il n'y avait que des rapports administratifs. Ma camarade cheminote a parlé tout à l'heure de la partition en deux de la SNCF. En deux de la SNCF, donc d'un côté, la toujours nommée SNCF, qui gère les trains, et de l'autre, RFF, Réseau Ferré de France, qui gère les voies. Cela signifie que là où il y avait des rapports purement administratifs entre les deux secteurs d'une même entreprise de service public, ce sont maintenant des rapports d'argent. Dès qu'il y a des rapports d'argent, eh bien ce sont les banques qui s'introduisent. Et s'introduit le jeu des emprunts et des dettes. C'est la porte ouverte aux rackets des banques. C'est la porte ouverte à l'endettement, avec pour conséquence des masses croissantes d'intérêts à verser aux banquiers. Et comme ma camarade infirmière l'a dit, c'est la même chose pour les hôpitaux. Le fait d'y avoir introduit la compétitivité et la rentabilité a fait entrer les banques là où elles ne devraient rien avoir à faire. C'est criminel, il n'y a pas d'autre mot. Le capitalisme vieillissant, ce n'est pas seulement le chômage, les quartiers populaires abandonnés, la pauvreté qui monte au milieu de flots d'argent, c'est aussi un recul considérable pour la société sur le plan humain, sur le plan social. Et cela se produit à une échelle gigantesque. L'argent emporte tout sur son passage. Et tout cela pourquoi ? Pour alimenter la spéculation financière dévastatrice. Alors oui, ce système économique, basé sur la propriété privée des moyens de production, la course au profit privé est arrivée à son absurdité ultime. C'est un système au bout du rouleau qui risque d'emporter toute l'humanité dans son effondrement. En tant que communiste, notre raison d'être est d'œuvrer pour que l'organisation sociale change afin que l'humanité survive, afin que la planète survive. Et pour agir sur le terrain de l'écologie, il ne faut pas se satisfaire de bavardages, alors que Total peut, comme avec le naufrage de l'Erika, empoisonner les côtes bretonnes, alors qu'il peut transformer en cloaque à ciel ouvert le delta du fleuve Niger sur des milliers de kilomètres carrés et en chasser la population. Il ne suffit pas de dénoncer la pollution des mers, le réchauffement climatique, le trou de la couche d'ozone ou la pollution des sols. Il faut se donner les moyens de maîtriser notre activité économique dans son ensemble. Et maîtriser notre activité économique a pour condition préalable l'expropriation de la classe capitaliste. Et il faudra commencer par exproprier les banquiers. Et pas seulement parce que les banquiers se conduisent comme des irresponsables et qu'ils ont transformé les salles de banque en salles de casino, mais parce que ce sont les banques qui commandent toute l'économie. Prendre la maîtrise des banques, c'est contrôler l'essentiel de l'économie, l'énergie, les transports, la distribution, c'est décider de l'usage fait des capitaux, c'est les orienter dans des investissements utiles à la population. Exproprier les banquiers, c'est-à-dire nationaliser sans indemnité ni rachat et fusionner les banques en un seul établissement de crédit, sera un pas de géant fait en direction de la gestion de toute l'économie par les travailleurs. Avec l'expropriation des grands groupes du CAC 40 qui font la pluie et le beau temps dans l'économie, les travailleurs pourraient reprendre la maîtrise de toute l'économie. Cela ne sera possible qu'à travers une révolution sociale d'une ampleur comparable à ce qu'a été la révolution de 1789 ou la révolte en Russie en 1917. De telles révolutions ne se déclenchent pas Elles sont l'œuvre de millions de personnes. Lorsque poussées par leurs conditions d'existence, elles se décident de prendre le mal à la racine et à reprendre leur avenir dans les mains. Lors d'une émission récente sur France 2, un journaliste s'est inquiété de savoir si je voulais vraiment d'une lutte qui aille jusqu'à menacer la classe capitaliste. Sans doute parce que ce monsieur, directeur de BFM Business, rêve de luttes inoffensives pour les patrons. Et puis, horreur, est-ce que j'étais vraiment pour la dictature du prolétariat ? Alors, pour revenir à cette expression de Karl Marx, j'ajouterai que le régime mis en place par la révolution des exploités sera infiniment plus démocratique, infiniment plus libre que tout ce que l'on connaît dans la société d'aujourd'hui. Justement, parce qu'elle sera l'œuvre de millions de femmes et d'hommes qui n'ont aucun privilège à défendre, qui n'ont aucun besoin de tout l'appareil répressif dont ont besoin les privilégiés aujourd'hui, qui sont entourés par un océan de pauvreté. Les libertés ne seront pas limitées, bafouées, voire complètement déniées par le pouvoir de l'argent. La démocratie ne sera pas cette caricature où l'on élit une fois tous les 5 ans des dirigeants qui, après leur élection, font ce que leur dictent les riches. Toutes les décisions seront prises de la façon la plus démocratique possible. La seule liberté qui sera supprimée, c'est celle d'exploiter. Mais cette limitation-là, oui, nous les communistes, nous l'assumons. Oui, nous sommes communistes. Communistes dans le vrai sens du terme, dans le sens donné par des générations d'ouvriers qui rêvaient d'une société débarrassée de la dictature de l'argent, de l'exploitation, de la concurrence et des crises. Une société gérée fraternellement et démocratiquement par la collectivité de ceux qui travaillent et produisent. Ce courant ne regroupe pas beaucoup de monde aujourd'hui, peut-être. Mais la crise est un formidable accélérateur de l'histoire. Elle ne fait pas qu'aggraver les conditions d'existence des classes populaires. Elle remue aussi les consciences. La crise économique actuelle amènera un nombre croissant de travailleurs, de jeunes, à la conscience que renverser le pouvoir de la bourgeoisie n'est pas une utopie, mais une nécessité. Eh bien, il faut qu'ils trouvent des militantes et des militants qui en défendent la perspective. Dans cette période de crise grave du capitalisme, il faut lever le drapeau de la révolution sociale. Ce ne sont pas les sondages ni les pressions pour que l'on se range derrière les uns ou les autres que nous ferons changer d'avis. Nous ne sommes pas des girouettes à tourner dans le sens du vent. Nous avons nos convictions, des convictions communistes révolutionnaires que nous sommes aujourd'hui les seuls à défendre. Et oui, le courant communiste a connu des hauts et des bas. À certains moments, ce courant a été représenté par des grands partis, comme l'était le Parti socialiste à sa naissance ou le Parti communiste un peu plus tard. Au fil du temps, et sous la pression du capitalisme, les directions de ces grands partis ont trahi leur cause pour s'intégrer dans le système et limiter leurs aspirations politiques à devenir les gérants loyaux d'une société dominée par le grand capital. Mais le courant communiste révolutionnaire n'a jamais disparu. Et s'il n'a pas disparu, malgré la pression du stalinisme, malgré la pression du réformisme et de l'électoralisme, c'est qu'il y a toujours eu des femmes et des hommes qui ont su être à contre-courant et qui ont tenu, envers et contre tout, à leurs convictions, à leur idéal. Je dis à toutes celles et ceux qui sont fiers d'avoir conservé leurs idéaux communistes, leurs rêves et leurs convictions, qu'ils doivent les exprimer dans cette élection par leur vote. Et ce vote comptera pour l'avenir. Car la conscience de classe, la conscience communiste ne peut pas être suspendue en l'air. Pour la transmettre, pour forger, à partir d'une classe ouvrière atomisée, une classe ouvrière consciente de ses intérêts, capable de peser sur la scène politique, puis de disputer le pouvoir à la bourgeoisie, il faut un parti, un véritable parti communiste révolutionnaire. S'il y a un courant communiste révolutionnaire, il n'y a pas aujourd'hui de véritable parti, avec ce que cela implique de présence dans la société, de présence dans les entreprises, dans les quartiers populaires. La grande faiblesse de la classe ouvrière face à la bourgeoisie, c'est cela. La bourgeoisie dispose de plusieurs partis, de la gauche à l'extrême droite, tous prêts à gouverner pour préserver les structures actuelles de l'économie et de la société. La bourgeoisie peut choisir parmi ces partis, suivant les circonstances et les nécessités du moment. La classe ouvrière, en revanche, n'a pas de parti qui représente ses intérêts politiques et uniquement ses intérêts politiques. Ce parti est à construire. Un parti qui ne cherche pas à s'intégrer dans l'ordre social du capitalisme ni dans les institutions de la bourgeoisie. Un parti dont l'unique préoccupation soit au contraire, face à chaque crise politique, à chaque crise sociale, de renforcer la position de la classe ouvrière en vue de l'objectif clairement affirmé d'exproprier la classe capitaliste et de mettre les richesses et les moyens de les produire à la disposition de ceux qui travaillent. Au regard de cette perspective, l'élection présidentielle est un épisode insignifiant. Mais si dans la campagne, si cette campagne nous a permis de semer des idées, eh bien elle aura une importance pour l'avenir. Les graines semées peuvent trouver un terreau dans la jeunesse. Dans la jeunesse qui a toutes les raisons de ne pas accepter le sort que la société capitaliste lui réserve. Dans le passé, on a dit aux jeunes des classes populaires « Faites des études, passez des diplômes, vous aurez un bon travail. » Mais combien sont exclus trop tôt de l'école ? Et ce sont aujourd'hui des centaines de milliers de jeunes qui s'entendent dire que ça n'embauche pas. Combien de CV ont-ils envoyé? Combien de stages ont-ils accepté? Et combien d'attentes ont-elles été déçues? Sauf pour une toute petite minorité, la jeunesse travailleuse est ballottée de stage en stage, de mission d'intérim en mission d'intérim, et le tout entrecoupé de longues périodes de chômage. Et combien de jeunes se disent à 20 ans, à 30 ans, qu'ils n'ont pas encore commencé leur vie? Quant aux jeunes qui font des études supérieures, ils peuvent espérer un emploi de cadre, d'ingénieur, de médecin ou d'enseignant. La société capitaliste leur offre peut-être un sort un peu meilleur que celui qu'elle réserve aux jeunes des quartiers populaires. Et encore, il n'est qu'à voir tous ceux qui, bardés d'un master ou d'une thèse, se trouvent obligés de postuler à des emplois sans rapport avec leurs qualifications et où on les payera grassement 1500 euros, si ce n'est moins. Mais le problème n'est même pas là. Le problème, c'est un problème collectif. C'est que même ceux qui, dans cette société, peuvent tirer leur épingle du jeu, le font au milieu d'un océan de misère et d'injustice. Et c'est ce que disent bien des enseignants qui se sont engagés dans ce métier avec un idéal et qui constatent au quotidien que l'État les prive des moyens nécessaires pour transmettre correctement les connaissances aux élèves dont ils ont la charge. Et c'est ce que disent aussi les médecins des hôpitaux, écœurés de la façon dont leurs services sont contraints de traiter les malades. C'est ce que disent bien des chercheurs, voire des cadres d'entreprise à qui on fait miroiter la lune et qui se rendent compte qu'ils ne sont que des rouages d'une grande mécanique à profit, toute prête à les broyer. Alors aux uns et aux autres, je veux dire qu'il y a un autre avenir. C'est celui des combats collectifs, celui de la révolte consciente. Il n'y a pas de cause plus noble que de s'engager dans l'activité pour transformer la société de fond en comble, afin qu'il n'y ait plus de privilèges et de privilégiés, car la contrepartie, c'est l'exploitation. L'oppression pour la grande majorité est tout un cortège d'arriérations, le sexisme, le racisme, en passant par la xénophobie, voire la guerre. Alors, je dis aux jeunes, ne laissez pas la politique à des politiciens professionnels qui en font une carrière personnelle, mais qui se moquent de la collectivité et de son avenir. Ne cédez pas au conformisme de cette société. Prenez part au combat pour l'émancipation sociale. À tous ceux qui se retrouvent dans les idées que je défends dans cette campagne, je dis rejoignez-nous en votant d'abord pour ma candidature le 22 avril. Et je dis à ceux qui nous ont déjà rejoints et qui ont apporté leur contribution à la campagne électorale, gardons les liens que nous avons tissés entre nous. Car une fois l'élection présidentielle terminée, une fois les élections législatives finies, d'autres combats nous attendent. Et des combats bien plus décisifs pour l'avenir. Tous les pas en avant dans la construction d'un parti révolutionnaire compteront dans les affrontements futurs avec la classe capitaliste. Débarrassés de la mainmise des intérêts privés sur les richesses et les moyens de les produire, débarrassés de l'exploitation et de la course au profit, la collectivité pourra maîtriser consciemment sa vie économique. Elle pourra alors produire tout ce qui est utile et nécessaire, mais rien que ce qui est utile et nécessaire, dans le respect des hommes et de la nature, afin que tous les êtres humains profitent du progrès et accèdent à l'éducation, à la culture, aux loisirs. L'exploitation disparue, disparaîtront les autres formes d'oppression en fonction du sexe ou de la nationalité. L'humanité pourra alors constituer un seul et même peuple avec une seule patrie, la Terre. Voter pour ma candidature, c'est affirmer que vous partagez cette vision de l'avenir. Et après les élections, eh bien, rejoignez ceux qui agissent pour que le rêve de l'émancipation sociale se transforme en réalité.
Bien, camarades et amis, il nous reste une semaine pour convaincre, mais là, Nathalie nous a donné des super arguments, on devrait y arriver. Et avant de nous séparer, eh bien, je vous propose que nous reprenions ensemble le chant des travailleurs du monde entier, l'International.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la fin du passé.